Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Sa famille, eh bien, sa famille, c'est le jeu des sept familles à elle toute seule. Avec un point commun, comme un gène hérité, la passion de la politique. Que vous demandiez le père, la mère, le grand-père, le mari, les enfants, ils sont tous complètement accros. Il y a 5 ans, c'est elle qui a co-animé le fameux débat d'entre-deux-tours de la présidentielle, celui dont on dit qu'il peut faire ou défaire un roi ou une reine en devenir. De son idole Clémenceau, le tigre qui disait de son chien, c'est un vrai ministre, il aboie en reculant, elle partage un franc-parler qui a pu parfois lui être reproché par le microcosme, mais jamais par le public. Dans un milieu où les égos prennent trop souvent le pas sur le travail, où l'on attache parfois plus d'importance à la question qu'à la réponse, elle est, elle, la journaliste qui ne s'aime pas, mais comme nous on l'aime, ce soir, Nathalie Saint-Cricq est dans Hors-Piste.
Hors-Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents, si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps.
Les obsèques de Jean Meunier, ancien ministre, président du directoire de la Nouvelle République, ont eu lieu au cimetière La Salle en présence d'une assistance considérable.
Parmi les patrons de la presse française, Jacques Saint-Cricq est le premier à affirmer haut et fort qu'ils n'ont plus assez de papier pour fabriquer leurs journaux. Il est devenu impossible de s'approvisionner à souhait. Le président de la Nouvelle République veut donc faire de son journal et des économies draconiennes qu'il y impose un exemple pour les autres.
Nous prévoyons de diminuer un petit peu la gâche en imprimerie, c'est-à-dire d'être très très strict dans la surveillance des journaux mauvais et du papier qui est gâché en imprimerie.
On va tout de suite rejoindre en direct Benjamin Duhamel devant l'Élysée. Benjamin, est-ce qu'il peut y avoir des annonces à l'issue de cette réunion ?
Écoutez Anne-Claire, pour l'instant peu d'informations pour l'instant filtrées sur cette réunion de crise à l'Élysée qui a donc commencé il y a environ 20 minutes autour du Premier ministre, des ministres chargés de la sécurité, Christophe Castaner, et son secrétaire d'État Laurent Nunez.
Donc ce soir, nous allons surtout parler, en tant que parti politique, du PC et de l'UDR. C'est un sujet qui est vaste et, si vous le voulez bien, nous allons l'organiser autour de deux thèmes qui nous semblent particulièrement importants.
On doit parler d'Europe. Et
je sais d'où je viens.
D'international.
Vous n'avez pas rompu avec
bon,
monsieur Hollande,
tous les deux.
Ne racontez pas quand même ça.
Non, mais arrêtez seulement.
Cette radio seulement sur les 304 candidates pourront émettre sur la bande FM, dont 39 fréquences pour la seule ville de Paris, une jolie bousculade pour en arriver à ce choix de la CNCL, avec bien sûr de très grosses déceptions et même de la colère chez certains postulants. Nathalie Saint-Cricq.
Grincement de dents pour certains, sourire pour d'autres. L'ambiance était chaude ce matin à la CNCL pour l'annonce des résultats.
Ah, ça va, hein.
Je vous pose la question.
Oui, cette manie que vous avez d'interrompre les gens, moi ça fait 2 heures que je suis là sur le grill, d'accord ?
Moi ça fait 2 heures que je vous écoute.
Alors à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, il m'a semblé important de rappeler ce qu'est l'histoire de ce lieu de mémoire, de ce lieu de pouvoir. L'Élysée, Patrice Duhamel, qu'est-ce que c'est ? Une bulle hors du monde ou bien l'épicentre de notre monde politique à nous Français ?
Les deux. D'abord, c'était un palais qui a été construit il y aura 3 siècles dans 2 ans. Pour faire la fête.
Nous sommes plus qu'à quelques minutes de la révélation des 2 finalistes de cette élection présidentielle. Nos premiers invités ne respirent plus. Ils sont arrivés à cette table. On va pouvoir les entendre dans quelques minutes réagir au score. Nathalie, vous non plus, vous respirez plus, hein.
Pardon, je ne vous ai pas entendu parce que...
Alors, je disais juste que vous ne respirez plus avec cette tension.
Tant envie de nous calmer que là, je suis au bord de l'apoplexie.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver.
Utile de Julien Clerc, ça pourrait être une promesse électorale, un slogan de campagne, mais c'est surtout une de vos chansons préférées, Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir et bienvenue dans Hors Piste.
Bonsoir Thomas.
C'est quoi être utile, une vie utile, Nathalie ?
C'est essayer d'être utile aux autres, c'est essayer d'être
de se dire à la fin de sa vie qu'on a peut-être servi à quelque chose, qu'on a peut-être fait du bien, pas trop de mal, et que, comment dire, quand on a quelques objectifs, quelques rêves, essayer de les atteindre et de faire toujours mieux.
Et ben, on va essayer de voir si vous avez atteint vos objectifs et vos rêves.
Mais ma vie n'est pas finie.
Non, bien sûr, c'est pas un hommage. Hein. Non, c'est pas du tout un hommage. Je vous ai observé, Nathalie, pendant que vous écoutiez ce petit portrait sonore, et j'ai vu, comme disait Jacques Chirac, citant sa grand-mère, un peu de l'eau du cœur monter dans les yeux. Pourquoi ?
Oh bah écoute, parce que d'abord j'ai entendu beaucoup de sons, comme on dit, à la radio, de personnes qui sont disparues, de mon grand-père, de mon père. On n'entend pas maman parce qu'elle était plus discrète, mais c'était quand même quelqu'un de très bien et très intelligent. Et que on a l'impression d'avoir un résumé de sa vie en quelques sons, ce qui est toujours bizarre. Il y a des gens qui rêvent d'assister à leur enterrement. Là, on a un peu l'impression que c'est ça.
Pas du tout.
Non, mais je veux dire, sur le résumé. Puis après, je me suis dit que l'impression terrible pour les auditeurs, c'est d'avoir une espèce de famille tentaculaire qui est partout. Quelquefois, sur les réseaux sociaux, mon fils se fait, comment dire, dénoncer
on
comme une espèce
de...
Voilà, alors là, je me suis dit, mon père,
ça
mon frère, mon grand-père...
Ça y est, vous avez peur de déranger. C'est incroyable.
Bon, toute la famille. Alors, je voudrais juste dire que certes, effectivement, ça nous a aidés. Et on aime la politique, mais qu'on a quand même un peu fait des études et un peu travaillé aussi. Mais je comprends que dès l'extérieur, ça puisse être un clan ou une mafia.
Mais rien
mais
du tout.
Que, non. Voilà.
Mais arrêtez cette plaidoirie, on va dérouler l'émission. Il paraît que vous adorez l'odeur de l'encre. C'est peu commun, ça vous vient d'où? Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette odeur d'encre?
Oh, bah parce que c'est l'imprimerie à la... Enfin, quand j'étais petite, mon père donc dirigeait un journal.
Ouais,
et on habitait dans le même immeuble, enfin dans la même maison. Et il y avait les rotatives. Alors c'est tout ça maintenant, c'est différent. Parce que les méthodes ont changé. Mais il y avait, on entendait le bruit, il y avait l'odeur, et l'odeur du papier, l'odeur de tout ça. Donc moi j'ai été plutôt élevée là-dedans. Et j'allais, comme mon père était directeur technique au début, j'allais souvent avec lui voir les machines. Voilà, c'était l'ambiance familiale.
Et vous avez gardé ce contact charnel avec le papier ou pas?
Oui, mais je me suis modernisée bizarrement. Mmh. C'est-à-dire que je dois dire.
Je ne vais pas vous dénoncer, mais quand vous venez dans Télématin, vous écrivez tout à la main.
Ah oui, moi j'écris à la main parce que voilà, j'écris sur mon ordi. Heureusement, je me suis pas fait Clémenceau à la main parce qu'autrement j'aurais déforesté à peu près la moitié de la planète. Mais j'aime bien le papier. Mais maintenant, je me modernise un peu parce que surtout comme je suis d'un tempérament profondément impatient, je peux avoir les journaux le soir.
Mmh. Ah, donc vous les lisez en numérique quand même.
Exactement. Ouais. Mmh.
Donc votre grand-père a fondé la Nouvelle République, journal repris par votre père Jacques Saint-Cric. Quand vous étiez petite à la maison, ça parlait politique tout le temps, matin, midi et soir ou pas?
Ouais. C'était des obsédés. C'est-à-dire que mes deux grands-parents, du côté de maman, mon grand-père était député, il est en 36, mais pas ayant voté les pleins pouvoirs à Pétain, je précise. Ouais. Ma grand-mère était une militante aussi. Et de l'autre côté, c'était également des militants. Et régulièrement, quand mon grand-père faisait campagne, mon autre grand-père le suivait pour faire une espèce de service d'ordre. Donc ils étaient tous socialistes à l'époque, mais ouais. Du socialisme à la Blum. À la SFIO, et il parlait que de ça, il s'engueulait.
Et la petite Nathalie, quand elle l'entendait, elle ne devait pas tout comprendre. Qu'est-ce qu'elle se disait?
Non, moi je ne comprenais pas tout, c'est surtout qu'il y a des moments où je trouvais que j'en avais non pas ras-le-bol, mais enfin je trouvais que ça faisait beaucoup. Oui. Ils étaient obsédés par les informations, et chaque fois quand on allait déjeuner chez mes grands-parents, ou même à la maison, ils coupaient les trucs que j'avais envie de voir et ils mettaient les infos. Donc j'ai été frustrée de Daniel Gilbert pendant des années. C'était entre 12h30 et 13h et on ouvrait pour avoir les négociations entre Kissinger et le Ducto, qui me fascinait déjà toute petite, et moi j'aurais préféré entendre Mike Brandt, voilà.
Enfant, vous aviez déjà conscience de la violence extrême de ce monde politique ou pas?
Ah mais oui, parce qu'en plus mon grand-père me racontait, lui il faisait campagne notamment en 56 au moment du mouvement Poujad, il était armé. Il était armé, c'est-à-dire il s'est fait agresser, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui hurlaient dans ses meetings, il y avait des gens qui montaient sur l'estrade. Donc sous la 4e République, ce qu'il me racontait également, c'est que pendant la guerre d'Indochine, il y avait des députés qui crachaient les uns sur les autres. Donc aujourd'hui on dit mon Dieu, c'est une violence extrême et tout, mais attendez,
c'est les bisounours.
Absolument. Oui. Alors, ça avait moins d'écho, parce que ça n'était pas diffusé partout. Mais il y a des gens qui se sont battus en duel. Alors, sous Clémenceau, je raconte même pas. Ça, on me l'a pas raconté directement. Mais il y avait des diatribes absolument épouvantables et des choses très violentes.
Alors, cela dit, privé et sevré de Mike Brandt et de Daniel Gilbert, vous auriez pu vous construire en opposition et finir abstentionniste, Nathalie Saint-Cric, non?
Non, parce que je sais pas, personnellement, j'ai fait la même chose peut-être pas avec mes enfants. C'est que finalement, ça nous fait des gros points communs. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'angoisse de ne pas pouvoir communiquer avec mon entourage. D'abord, je suis d'un tempérament angoissé, c'est le premier point. Et deuxièmement, je me suis dit, si un jour j'ai des enfants et qu'ils me parlent de trucs, je comprends rien, et que moi je leur parle de quelque chose et qu'ils en ont rien à faire, ça sera complexe. Alors que là, à tout moment, on peut communiquer parce qu'on aime les mêmes choses et qu'on pense pareil. Et mon frère est pareil. Mon frère lui dirige le journal encore. Ça fait le énième membre de la famille du clan. Et on parle politique. C'est-à-dire que on regarde les meetings, on s'appelle après.
La politique comme ça, de père en fille, de grand-père en père, etc., ça vous a aidé? Ça ouvre des portes en vrai ou pas?
Ça ouvre des portes, bien sûr, parce que ça veut dire que il y a des tonnes de choses que j'ai pas eu besoin d'apprendre, parce que je les connaissais sans avoir fait le moindre effort. Même mon grand-père m'expliquait, ma grand-mère, le Parti communiste, le pacte germano-soviétique, l'Union de la gauche, enfin, j'avais l'impression d'être familière avec des personnages et avec des éléments que je n'avais pas vécu vu que j'étais trop jeune, donc j'ai gagné du temps par rapport à ceux qui sont obligés de lire ça.
Bon, on va faire un peu d'état civil. Vous êtes donc Nathalie Saint-Cricq, épouse Duhamel, Patrice Duhamel, dont le frère, votre beau-frère, donc s'appelle Alain Duhamel, qu'on voit à peu près sur toutes les archives de la Ve République. Vous avez deux enfants, Raphaël et Benjamin, et bim, Benjamin est journaliste politique.
Oui. Mais l'autre est normal.
L'autre est normal, ça veut dire qu'il fait quoi l'autre?
Il fait des études de lettres, et c'est un intellectuel. Ce n'est pas un journaliste, vous comprenez la distinction que je fais entre les deux.
Il y en a qui réfléchit vraiment. Vous êtes mère poule, vous êtes fière d'avoir vu Benjamin prendre le relais?
Je n'avais pas spécialement envie qu'il le prenne. Ouais. Je rêvais qu'il soit autre chose, comme toutes les mères rêvent toujours de quelque chose.
Vous rêvez de quoi?
Moi, j'aurais adoré qu'il soit chef d'orchestre, violoniste ou avocat pénaliste. Moi, je le voyais en micro du Pont-Moretti, mais sans la barbe et sans l'embonpoint. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé, mais je suis très contente maintenant qu'il fasse ce genre de choses. Et mère poule, oui, puisque j'ai mis un peu ma carrière. Oh, ça fait, c'est pédant, mais je veux dire, j'ai travaillé derrière. Avec des gens pendant les 15 ans où mes enfants étaient petits, parce que j'en arrivais à devenir totalement débile. J'appelais l'Élysée sans arrêt quand je suivais Chirac en disant « Est-ce qu'il part tel jour? Combien de temps il part ?» Parce que j'avais qu'une seule trouille, c'est de laisser les enfants. Donc au bout d'un moment, je me suis fichue en rédaction en chef. Et comme ça, j'étais sûre de rentrer tous les soirs à la maison. Mais j'ajoute que mes fils, quand je rentrais, cachaient mes chaussures pour être sûr que je ne sorte pas.
Oh.
Donc c'est bien qu'il y avait un besoin, donc j'y ai cédé.
Vous vous souvenez du dernier repas de famille, s'il a existé un jour, durant lequel vous n'avez pas parlé de politique?
Je ne suis pas sûre qu'il y en ait eu un.
C'est fou quand même.
Oui, c'est fou. En tout cas, c'est toujours parapolitique, c'est-à-dire que on a pu discuter du, je sais pas quoi, de la GPA, de la PMA, du genre, du wokisme et tout ça, mais c'est toujours un sujet d'actualité.
Donc là, en ce moment, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde pour vous, là.
Ou alors peut-être un peu en dessous, quoi, parce que c'est quand même pas une super Coupe du Monde. Mais moi, je sais que le matin, quand je me réveille, comme mon mari écoute la radio depuis je sais pas quelle heure, je pense qu'il l'écoute toute la nuit, la première question que je lui pose, c'est « il s'est passé quelque chose ?» Voilà, parce que c'est pour ça que je suis aussi journaliste, parce qu'il se passe toujours quelque chose.
Il y a 5 ans, vous aviez animé le débat d'entre-deux-tours, je le dis dans le portrait, débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On va se remettre dans l'ambiance. On est donc en mai 2017 et on est 4 jours avant le second tour.
Regardez, ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de votre parti.
Ils sont sur les réseaux sociaux.
Je parle du parti de l'extrême droite.
Les envahisseurs.
Celui que vous dirigez,
bien sûr. Vous êtes jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur. Parce que vos arguments ont le double de votre âge. Mais enfin, ça, c'est pas très grave. En l'occurrence, moi, je protège tous les Français.
C'était il y a des années. Marine Le Pen, s'il vous plaît.
Monsieur, attention, on n'allait pas sur ce terrain-là.
Vous non plus, je crois, madame.
Non. Moi, je défends la France.
N'y allez pas.
Et on va réussir à trouver un point de connexion.
Quel souvenir vous gardez déjà de ce débat?
J'ai le souvenir d'avoir eu extrêmement peur pendant 3 jours avant. J'ai le souvenir d'avoir été extrêmement excitée pendant, bien que ne pouvant pas en placer une. L'autre jour, quelqu'un a calculé que sur 2h30, j'avais parlé 7 minutes. Donc, c'est pas exactement le numéro de journalisme le plus valorisant.
C'est clair que ça ressemble pas à une émission politique classique, à une émission politique
classique.
C'est clair
que les questions sont assez plates, mais elles doivent l'être pour permettre aux candidats de débattre. J'ai le souvenir d'être sortie avec des gens effondrés parce qu'ils avaient trouvé ça extrêmement violent, alors que moi, je m'étais pas rendu compte de la violence. J'ai également le souvenir de mon fils me disant surtout, ne regarde pas les réseaux sociaux.
Ouais.
J'ai pas regardé parce que tout le monde s'était. Il y a eu un avis de recherche qui a été lancé sur les réseaux sociaux en disant Jacques Cuisine, Saint-Cricq, où ils sont passés, ils interviennent pas du tout.
C'est que vous avez fait une alerte, job, en l'occurrence.
Une alerte
enlèvement. C'est le principe de ces débats-là.
Mais c'est plutôt sympa de faire ça.
C'est une fierté, en vrai, c'est un peu une médaille ou pas?
Non, parce qu'en fait, les gens considèrent quand même que c'est un truc où on est entre le chronomètre et le passe-plat. Oui. On peut pas dire que, on peut pas. Mais c'est un souvenir, quoi. Oui. Quitte à être journaliste politique, autant le faire une fois dans sa vie.
Si je vous demande pourquoi vous avez été choisi, vous allez me dire quoi?
Par défaut.
Arrêtez.
Ah non, mais attendez, c'est très clair. Il y avait normalement, ça devait être Pujade à ses boulots. Oui. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont considéré que deux hommes, ça n'était pas possible. Donc après, ils sont passés à un homme, une femme. Alors il faut que ce soit toujours pareil, c'est présentateur week-end. Anne-Claire Coudray a été retoquée par Marine Le Pen. Mmh. Et au bout d'un moment, ils ont trouvé le plus petit commun dénominateur. Ils sont tombés sur les chefs de service. Mmh. Je ne veux pas dire que tout d'un coup, il y a Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se sont dit, il y a un génie qui sommeille à France 2, on va aller le chercher pour animer le débat. C'est pas comme ça.
Mais est-ce qu'on a quand même le sentiment de faire, malgré le rôle réduit que vous avez expliqué, de faire un peu plus qu'une émission de télé dans ces moments-là, est-ce qu'on se sent un petit peu acteur de la démocratie, du film, de l'histoire?
Acteur de la démocratie, ça serait peut-être un petit peu fort. On a l'impression d'être là à un moment donné où il se passe quelque chose. Oui. C'est comme ceux qui sont allés au mur de Berlin. Enfin, j'exagère, je m'enflamme. On a l'impression d'être à côté de l'histoire, ou de la regarder, ou de la, non pas d'y participer.
D'être en première loge.
Ouais, voilà. Ouais. C'est mieux que de regarder ça chez soi.
Qu'est-ce que vous avez lu dans les yeux des deux finalistes, donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui sont donc les deux mêmes que ceux de la semaine prochaine, avec 50 mois?
Ils sont regardés. Ils sont arrivés très tard. C'est-à-dire 2 minutes avant l'antenne. Ils se sont regardés avec une espèce de, un petit truc excité dans l'œil. Comme deux bêtes qui se calculeraient, comme disent les jeunes, comme ça. C'était assez tendu, c'était assez... Ils se sont pas parlé, ils se sont dit bonjour, mais pas plus. Moi, j'ai essayé de dire des blagues pour... je sais pas si c'était pour me détendre moi ou pour détendre l'atmosphère. Ça a été un flop absolument intégral. Et après, je me suis contenté d'essuyer la table où je transpirais tellement qu'il y avait des traces d'eau pour me calmer. et voilà, en me disant, bah, priant le ciel, auquel je ne crois pas, que ça se passe pas trop mal. Et c'était,
tendu.
C'était, mais avec un plaisir comme un matador qui rentrerait pour une corrida avec comme quelque chose de fauve.
Et entre eux, ils se font des petites crasses, des petits coups par derrière, des petits tacles par derrière ou pas?
Non.
Ou leurs équipes dans les préparatifs? Ou
non, je crois pas. Oh, il y a eu le fameux cirque au moment du Ségolène Sarko.
Ça,
c'était l'enjeu était la température du studio. C'est-à-dire que Ségolène Royal voulait énerver Sarkozy. Pour énerver Sarkozy, il fallait qu'il transpire. Pour qu'il transpire, parce que ça se voit, la transpiration à la télé, surtout qu'il n'y a pas de raccord maquillage pendant toute la durée. Donc, elle avait décidé qu'elle avait froid. Donc, ayant froid, elle a voulu monter la chaleur dans le studio. La température, il n'a pas été dupe. Donc, il y a eu un combat pendant une heure.
Sur la clim
et tout. Ils se sont mis d'accord à 20 ou 19, de manière à ce qu'elle n'ait pas froid, mais qu'il ne transpire pas. Ah, mais ils se sont baladés avec un thermomètre. C'était absolument passionnant.
Ça crée un lien particulier avec les candidats d'avoir partagé ça ou pas?
Là, c'est particulier parce qu'il y a Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui, un peu, mais je fréquentais plus Emmanuel Macron avant en tant que journaliste quand il était accessible et tout. Depuis, pas spécialement, pas plus que pour mon boulot, peut-être un petit peu quand même, oui.
À propos du débat de la semaine prochaine, de mercredi, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours de cette forme de répudiation médiatique d'Anne-Sophie Lapix pour co-animer le débat. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, chacun dans des styles différents sur la forme, ont dit la même chose sur le fond, on veut pas d'elle. Et moi j'imagine nos auditeurs là qui nous écoutent et qui entendent tout ça depuis quelques jours, qui disent mais depuis quand les politiques choisissent ceux qui les interrogent? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dérive là?
Alors, pour ce qui concerne le débat de l'entre-deux-tours, ça a toujours été le cas. Alors c'est pas parce que ça a toujours été le cas que c'est bien. Oui. On pourrait penser que dans un pays moderne, il n'y a pas de choix. Donc moi, je trouve ça totalement ridicule, cette histoire de retoquage. Je trouve ça ridicule, parce que les questions sont tellement contrôlées que même si vous détestez l'un des deux,
questions ou les thèmes sont contrôlés?
Les deux, en général.
Ah.
Les thèmes sont choisis par les deux candidats, donc ça sera extrêmement intéressant de voir mercredi de savoir où est placé l'international, si l'international commence, ce qui serait favorable à Macron, ou si c'est à la fin, de voir si c'est le chômage dont on parle, ce qui favoriserait Macron, ou le pouvoir d'achat qui pourrait favoriser Marine Le Pen. Oui. Donc les thèmes sont choisis, et quand après on entend, on n'a pas parlé d'écologie, c'est juste qu'ils ont décidé de pas en parler, parce qu'ils ont fait plus long sur ce qu'il y a avant.
D'accord.
Donc les thèmes sont choisis, et les questions sont réécrites, ou du moins elles l'ont été à mon époque, c'est-à-dire il y a 5 ans, de manière à ce qu'elles soient les plus plates possibles. C'est-à-dire, on ne pose pas la question, imaginons que ça se passe aujourd'hui, enfin on ne la posait pas, du thème, vous vous êtes engagé auprès de la Russie, on vous sait proche de Valérie, de Poutine, d'ailleurs votre financement de campagne vient d'une banque russe, comment aujourd'hui vous pouvez justifier ça? Non, c'est quelles sont vos relations avec la Russie?
D'accord.
Ça sera ça, pour pas qu'on influence le moins du monde en posant des questions.
C'est donc l'interview PH7, quoi, il faut être neutre.
Un petit peu, exactement, tracé des bases. Un, puisque c'est aussi plat que ça, pourquoi s'exciter en choisissant les journalistes? Puisque de toute façon, quel qu'il soit, ça sera à peu près les mêmes questions. Ensuite, c'est à haute direction de chaîne de refuser de ce genre de choses. Oui. C'est pas Anne-Sophie Lapitz qui va aller se battre toute seule. Voilà, donc c'est quelque chose qui ringard. De même qu'est ringard l'absence de plan de coupe qu'on avait jusqu'à il y a 5 ans et oui, qu'on risque d'avoir de nouveau.
Plan de coupe, c'est-à-dire que quand il y en a un qui parle, on ne fait pas une image sur
voilà,
l'autre.
Voilà, mais là, il y a une limitation des plans de coupe.
Oui.
C'est-à-dire que vous ne verrez pas, comme vous avez pu voir il y a 5 ans, la tête de Marine Le Pen quand Emmanuel Macron parle, et réciproquement, puisque les plans de coupe sont contingentés.
C'est le prix de la démocratie ou c'est le retour à l'Union soviétique?
Alors, pour la réalisation, c'est l'Union soviétique, définitivement. Mmh. Pour le reste, on peut se dire que c'est pas une émission politique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'émission des candidats. Oui. Donc en gros, il y a quelqu'un qui est là pour faire speakerine ou passeur de plat, ou dire, attention, il y aura 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes, vous êtes en retard de 3 secondes. Le reste, c'est plutôt bien que les journalistes s'effacent.
Est-ce que vous les tutoyez, vous, les politiques?
J'en tutoie certains, oui.
Est-ce que c'est un problème?
Non, je tutoie ceux qui ont à peu près mon âge et avec lesquels j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé. J'ai pas commencé à travailler, à être attaché de presse, mais c'est des gens que je connais depuis 30 ans.
Comme on tutoierait des gens qu'on côtoie depuis 30 ans dans notre
milieu
professionnel.
Bah oui, totalement normalement, c'est pas un problème. Parce que vous voyez, par exemple, je tutoie Copé, je tutoie Valls, parce qu'on est à peu près tous les trois de la même génération et qu'on a fait beaucoup d'émissions avec eux. Ça m'a jamais empêché de faire un papier quand Manuel Valls a pris un avion pour aller voir un match de foot, de faire un papier désagréable sur lui et de faire un papier désagréable sur Copé également.
Et pourtant, en cette période très tendue, il en faut pas plus pour que certains crient oh là là.
Non, mais attendez.
Connivence. Ah, c'est quoi la connivence?
Non, mais moi, je commence à être vraiment fatiguée par ça. D'abord, parce que c'est tellement facile de cibler les journalistes politiques et de pas prendre les journalistes musique, cinéma, qui disent « Ah, votre dernier single est dans les bacs », alors que même le disque peut être complètement pourri, et la chanson aussi, disent des choses très aimables sur certains films, en sachant aussi qu'ils ne sont pas très bons. Je parle même pas des critiques gastronomiques qui se font inviter toute l'année pour faire des papiers sur les restaurants, ni ceux qui partent en week-end dans certains beaux hôtels pour pouvoir faire un papier après. Nous, pauvres bêtes, ce qu'on obtient au mieux, c'est... Moi, j'ai dû recevoir dans ma vie une bouteille de... C'est pas du Calvados, parce que c'était Henri Emmanueli, c'était de l'Armagnac, voilà, et un sac de noix d'André Valigny. Donc, on peut pas dire qu'on soit des gros vendus et des gros pourris. Ça, c'est le premier truc. Les gens qui décrètent, non, je ne déjeune pas avec les politiques... Moi, je déjeune pas non plus avec les politiques sans arrêt, mais il m'est arrivé très régulièrement, quand j'étais plus jeune, de faire ma tournée de déjeuner pour les connaître et pour pouvoir ainsi, après, passer un coup de fil dans l'après-midi ou avoir des informations. Voilà, on est là pour avoir des...
Sauf qu'aujourd'hui, ces déjeuners, c'est des déjeuners de groupe qui se font souvent avec des politiques et que les politiques font du faux off, c'est-à-dire qu'ils balancent des trucs dont ils savent très bien qu'ils vont se retrouver partout le lendemain matin. Est-ce que, d'une certaine manière, la communication politique n'a pas tué le journalisme politique?
Ah, sans doute, mais c'est pour ça que moi, je fais pas des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, je ne veux pas. Je préfère prendre un café 10 minutes avec quelqu'un, mais toute seule.
Oui.
Pour pouvoir dire exactement, poser les questions que je veux, plutôt que d'être le réceptacle. Et puis, franchement, l'âge venant, quand c'est de la com, on s'en rend compte.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être intoxiqué par des gens qui me disent « Mon Dieu, Emmanuel Macron est très inquiet pour le deuxième tour », alors que je sais pertinemment qu'il ne l'est pas tant que ça.
Il y en a un avec qui vous n'êtes vraiment pas connivante, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ça a toujours été l'amour vache avec vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre Mélenchon et Saint-Cricq?
Mais il se passe rien. Il confond plein de trucs. D'abord, j'ai suivi la gauche quand j'ai commencé à travailler à la 5. Donc, je me suis tapé, comme tout le monde, le congrès de Rennes, les congrès, avec toute la culture qui va avec ces congrès. C'est-à-dire qu'on passe des nuits ensemble avec les militants, enfin ensemble à discuter, on passe pas des nuits à l'hôtel. Donc, qui m'a pris pour une socialiste. Alors, pour lui, maintenant, c'est comme si j'avais été collabo, que j'avais fait des horreurs pendant la guerre. Donc, il me traite de socialiste. De temps en temps, il me traite également de printemps républicain, à savoir de laïcard et d'obsédé de la laïcité.
Parfois, il vous répudie aussi un peu dans des émissions.
Ah, mais il me répudie tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, on peut pas être dans la même pièce. J'ajoute qu'il me dit pas bonjour. Moi non plus. Enfin, l'autre jour, je suis allée lui dire quand même que je lui disais bonjour. Et puis, elle s'est allée même plus loin une fois, après une émission, il m'a dit, va te faire foutre. Voilà, je ne sais pas. C'est assez irrationnel, en fait, parce que je n'ai pas été plus désagréable que les autres. Je ne pense pas être agressive. Simplement, il me soupçonne de... Je sais pas de quoi. Enfin, bon, je réussis à très bien vivre avec, mais on se connaissait très bien. On a déjà fait 3 déjeuners de réconciliation en 20 ans. Il y en aura pas un 4e.
Pas sûr que Jean-Luc Mélenchon ait donc une place dans votre panthéon personnel, Nathalie Cinquet. En revanche, on y trouve à coup sûr Clémenceau. Vous avez donc écrit un roman, vous l'évoquez tout à l'heure, très remarqué sur Clémenceau. Il s'appelle « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir », publié l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Tiens, petit extrait du téléfilm que France 2 avait diffusé sur le Tigre il y a quelques années.
Puisque je suis attaqué personnellement.
Démission !
Puisque je suis attaqué personnellement, qu'il me soit permis de justifier la doctrine du gouvernement.
Oui. Oui.
Alors pourquoi lui, le tigre, le père de la victoire, que vous décrivez dans votre livre comme un type odieux, un type infernal, un type intolérant, pire qu'un enfant jaloux ?
Oui, mais il est séduisant. parce que simplement c'est une époque où la politique avait probablement plus de talent et probablement que de toute façon Clémenceau ne survivrait pas aujourd'hui hein.
Pourquoi ?
Entre les réseaux sociaux et les chaînes infos, il dirait tellement d'horreur, il dirait tellement ce qu'il pense qu'il serait éjecté du gouvernement en 12 secondes. Parce que
ça serait quand on se pose 2 secondes, ça serait dommage de se priver d'un type, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, d'un type comme Clémenceau.
Oui, mais
aujourd'hui, un type comme Clémenceau ne pourrait pas.
Mais attendez,
faire
vous imaginez le nombre de choses qu'il a pu faire, à la fois le nombre de phrases, à la disparition de Félix Faure. Logiquement, quand quelqu'un meurt en France ou ailleurs, tout le monde dit qu'il était formidable.
Maintenant, on fait un tweet dégoulinant.
Voilà. Et lui, il a dit, en entrant dans le néant, il va se sentir chez lui. Enfin, vous voyez, c'est pas un truc, c'est pas non plus le genre de choses qu'il faut faire. Quand il dit, je vais toujours acheter du poisson frais, sauf quand j'invite des députés. Enfin, un jour, il a renversé du... Il y avait un député qui mangeait dans l'hémicycle. Ça l'agaçait, il trouvait que c'était incorrect. Donc, il est arrivé un jour avec une petite bouteille avec du Porto, je ne sais quoi, et il lui a mis dans le cou, dans l'hémicycle, en lui disant, comme ça, vous aurez la boisson avec. Vous voyez ça aujourd'hui ?
Non.
Bon,
non.
Alors...
Mais, il est amoureux, Clémenceau.
Ben oui,
il
est toujours
d'une femme
amoureux.
Qui est beaucoup plus jeune que lui, c'est toute l'histoire du
Ça, c'est banal.
Livre. vous ne seriez pas incroyablement romantique, Nathalie Saint-Cric ?
Oh, si. Mmh. Ah si, parce que je trouve... Bon, bien sûr, attendez, moi, tous les livres que j'aime sont des livres... je regarde pas, c'est pas la collection Harlequin, mais j'aime bien les histoires. Quand on mêle de la politique, l'humour, une espèce de... en plus, une forme de transcendance, parce qu'il était athée, mais il croyait à quelque chose. Mmh. Je trouve qu'il y a tous les ingrédients... Enfin, moi, j'étais pas folle de lui, mais... Je suis allée souvent dans sa maison à Paris. Et je suis allée tout près de son lit et je lui ai parlé. Enfin, je suis pas dingue, hein.
Merci de le préciser.
Mais voilà, j'ai un petit côté comme ça. Bien sûr, je suis romantique. Autrement, qu'est-ce que ça serait triste.
Pour finir le tableau, on peut ajouter qu'il était extrêmement misogyne. Est-ce que notre classe politique l'est toujours misogyne, Nathalie ?
Non.
Non ?
Non, je crois pas. Ouais. Je crois pas. Alors, je sais que j'ai des consoeurs. Les collègues qui considèrent que c'est très violent, moi je l'ai jamais vécu, et je considère surtout que nous journalistes, on est quand même protégés par notre encadrement, et que si quelqu'un nous traitait mal parce qu'on est une femme, on serait défendu, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres professions, où on peut subir un certain nombre de choses, des mauvais traitements, des non-promotions. Pas dans le journalisme, enfin j'ai pas l'impression.
Et la corruption, ça existe, les tentatives au sens large du terme de...
Non, ce qui est le...
On n'a jamais essayé de vous acheter d'une manière ou d'une autre, vous ?
Non.
À part avec les noix dans Trifolini.
Ouais. Non, je pense que le premier danger n'est pas qu'on essaie de nous acheter, ni de nous faire pression sur nous, c'est l'envie de se mettre bien avec. Et c'est pas quelque chose qui vient des puissants, c'est pas un politique qui appelle en disant « sois gentil avec moi ». C'est certains journalistes ou certaines personnes qui devancent l'appel, comme le maréchal Pétain avec les Allemands. Oui. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils n'osent pas faire un mauvais papier parce qu'ils ont peur de se brouiller. On leur a rien demandé, quelquefois.
Oui.
Et des gens qui, en gros, n'aiment pas faire de vagues.
C'est la différence entre le fantasme de la censure et l'autocensure qui existe
Exactement.
Parfois.
Exactement. Oui. Je trouve l'autocensure... Enfin, moi, on m'a jamais relu un papier. Quelquefois, j'ai demandé à ce qu'on me le relise parce que je me demandais si j'allais pas trop loin.
Oui.
Mais jamais quelqu'un m'a dit « tu dois pas dire ça » ou « ça se fait pas ».
On parlait de misogynie. Et la télé, est-ce qu'elle l'est toujours ?
Non, la télé n'est pas misogyne, la télé quand même, comme c'est de la télé, voilà, un sophisme passionnant, c'est que quand vous êtes une femme, oui, vous avez intérêt à être jolie et vous avez intérêt à être plutôt jeune. Voilà. Quand vous êtes un homme, vous pouvez vous émanciper ce genre de choses plus facilement.
Vous n'avez jamais fait de concession à l'apparence. On a l'impression que vous vous en foutez. Les talons hauts, les tralala, tout ça, c'est pas
votre
truc.
Non, mais j'ai une paire quand même que je mets quand je vais à l'antenne, ouais, avec des talons.
Pourquoi vous avez un rapport si compliqué à la féminité?
Ah, alors ça, probablement c'est maman, ouais, qui m'a élevée comme mon frère. C'est-à-dire avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes... Ma mère était quelqu'un de...
Féministe, en fait.
Féministe, mais jamais j'ai eu de conversation avec elle sur le vernis à ongles. Ou, elle m'a élevée comme une espèce de petit sauvage. J'ai pas de problème avec la féminité, mais ça m'a... Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas. Si. En fait, mon fils, quand il était petit, il me demandait pourquoi je mettais pas de rouge à lèvres et pourquoi j'avais pas de robe. Je me suis rendu compte que j'étais probablement pas exactement à l'image de la mère classique, mais je pense pas être, je suis pas comme un homme, je suis pas brutal, je suis pas, mais je me sens pas spécialement genrée. Et je ne supporte pas d'être envoyée.
Vous êtes Yel?
Je suis. Non, je suis. Voilà, je me sens comme un homme, comme un intellectuellement pareil.
Alors, mais du coup, vous êtes souvent...
Faut pas exagérer, vous dites que je fais pas attention.
Non, mais
je suis pas non plus...
Il y a un petit côté quand... Bah, je veux pas raconter les coulisses des émissions politiques qu'on a fait ensemble, mais quand la styliste arrive sur... Oh là là, mais non, mais on s'en fout. Non, mais ça, on s'en fout. Et
bah,
les cheveux,
oui,
on s'en fout.
C'est, oui,
et du coup,
oui,
vous faites un peu allumer là-dessus.
Oui, ah bah oui, bah oui, je me fais allumer très classiquement. Non,
ça
non,
vous touche ou pas, ça?
Alors, ça me touche pas quand c'est des âneries du type elle a des ballerines, elle a pas de talons, parce que c'est tellement crétin. Ça me touche... un peu, parce que ça fait 5 ans ou 6 ans que j'ai des trucs récurrents sur mes cheveux. Donc soit je suis pas coiffeur dès que je sors du lit, soit je suis trop coiffeur dès que je ressemble à un Playmobil. Voilà, donc j'essaie d'être entre les deux. Et ouais, ça me touche forcément, parce que attendez, quand j'étais jeune, ça ne me touchait pas. Enfin, d'ailleurs, j'étais pas à la télé quand j'étais jeune. Mais quand on vieillit, on est obligé de faire attention, parce que on veut pas avoir. L'autre jour, j'ai eu un tweet de mes amis mélenchonistes disant votez pour Jean-Luc Mélenchon. Il propose la retraite à 60 ans, comme ça, on sera bientôt débarrassé de Saint-Cric. Je peux pas vous dire que c'est agréable.
Donc, vous pouvez regarder quand même les tweets, même si votre fils...
Non, alors, je fais une veille hebdomadaire. D'accord. De temps en temps, je regarde, comme ça, et après, je ne regarde pas.
Et on évoquait le féminisme de votre maman tout à l'heure. Sur l'échelle très ouverte du féminisme aujourd'hui, vous vous situez où, vous?
Oh, je me situe à... je me situe, si on... aux deux tiers, si on met une note sur 10 à 7, c'est-à-dire que pour moi, le féminisme, c'est avoir le droit de faire exactement la même chose que les hommes. Mais ma grand-mère était pareille. Hein. Ma grand-mère, elle a passé son permis de conduire à 20 ans, à une époque où personne ne conduisait. Elle s'est coupée les cheveux. Quand on se coupait pas les cheveux, c'était une espèce de... Enfin, je veux dire, une famille de femmes qui font ce qu'elles veulent. Oui. Mais pas des dominantes qui écrasent leur mari, hein, mais simplement qui font ce qu'elles veulent. Mais ce que je ne supporte pas, c'est l'anti-homme. Enfin, oui, y a une limite où être féministe, ça veut pas dire que considérer que les hommes, c'est... Voilà, moi, je suis contente... Je suis contente de recevoir des fleurs, je suis contente éventuellement qu'on m'invite à dîner, je suis contente... voilà, je n'ai pas de combat contre les hommes, loin de là. Et j'ai deux fils, un mari, un frère, je suis plutôt entourée d'hommes, et je m'entends très bien avec eux.
Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes devenue un personnage aujourd'hui, Nathalie Saint-Cric. Est-ce que ça vous fait plaisir, quand même?
Mais on s'en rend pas compte, hein.
Ouais.
Ça, je veux dire, c'est le regard des autres. Moi, je sais pas. Je pense pas vraiment. Mais... vous savez, j'aime pas du tout ça. Hein. Moi, j'ai commencé à être à montrer ma tête, si j'ose dire, à 45 ans. Mmh. J'ai pas de photos de moi à la maison.
Vous avez un rapport à vous-même qui est... Quand je vous ai appelé pour vous inviter à cette émission, vous m'avez dit, bah, dis donc, t'as vraiment personne d'autre à inviter? Comme si vous étiez forcément toujours le plan B.
Non.
Ce que vous n'êtes pas.
Non, mais c'est pas de la fausse modestie, c'est juste
non,
que...
Non, c'est pas de la fausse modestie, je vous connais, c'est pas de la fausse modestie.
C'est juste que... Ben, je parle pas trop, enfin, je suis assez... voilà, puis ça me bouleverse plus que ça. Enfin, je veux dire, moi, je parle de mon entourage, et mais ça va, moi, j'en parle. Surtout de mes parents, que j'ai perdu récemment.
C'est le moment d'écouter votre choix musical, Nathalie Saint-Cric, en l'occurrence Zorba le Grec de Mikis Theodorakis.
Thank you.
Zorba le Grec, Nathalie Saint-Cricq, dans Orpi sur France Inter. Pourquoi ce choix? On va le garder en fond sonore, Zorba.
Parce que c'est une des premières musiques que mes parents, maman, m'ont fait écouter. Et ma mère me faisait danser là-dessus quand j'étais petite. Je trouve ça d'une gaieté absolue. En plus, j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup le livre. Et j'ai fait pareil avec mes enfants. Donc à la maison, les premières musiques des enfants, c'était de les faire danser sur le sirtaki. Et moi, j'adore ça. J'adore la Grèce. Et c'est quelque chose qui, dès que je l'écoute, ça me met de bonne humeur. Voilà. C'est pas si fréquent de trouver un truc comme ça. Puis la progression est.
Alors Nathalie, ce film, on le rappelle, c'est l'histoire de Basile, un jeune écrivain anglais, un peu austère, très ou trop bien élevé, qui retourne en Crète pour récupérer l'héritage de son père, et qui rencontre Zorba. Zorba, il est beaucoup plus foufou, et lui, il aime rire, il aime boire, il aime chanter.
Il a le sens de la vie.
Il a le sens de la vie. Je me suis demandé si vous n'aviez pas fait ce choix, parce que finalement, vous êtes très Basile d'apparence, mais très Zorba sur le fond.
Ouais, c'est pas faux. Je trouve qu'il y a une puissance dans le livre. De toute façon, moi, j'adore Kazantzakis en plus, mais il y a quelque chose d'un instinct vital, quelque chose qui relève du soleil, de la mer. J'ai un côté infantile. C'est-à-dire que quand je sors, qu'il fait beau et qu'il y a la mer ou qu'il y a du soleil, je peux pas m'empêcher d'être heureuse. Mais même si je le suis pas. Ouais. C'est un côté, je sais pas, terrien ou je sais pas comment ça s'appelle. Je suis à la fois angoissée, triste, mais joyeuse, voilà.
Votre tentation de Venise, vous, c'est quoi? C'est la Crète?
C'est la Grèce sans doute, ouais. C'est en tout cas un endroit où il y a et puis il y a une histoire en plus. Je finirais peut-être en Grèce avec ou sur un bateau, je sais pas.
Il y a la Touraine aussi.
Ouais, mais c'est moins exotique. Hein.
Racontez-nous votre Touraine. Je crois que ça compte vraiment beaucoup pour vous.
Bah ça compte beaucoup parce qu'il y a eu toute ma famille, parce qu'il y a mon frère qui y habite encore. Oui. Parce que, bah vous savez, c'est les maisons dans lesquelles on a vécu. J'écoutais l'autre jour un reportage où il y a des Ukrainiens qui disaient « je veux rentrer chez moi parce qu'il y a mes morts, oui. la patrie de là où sont enterrés ceux qu'on a aimés. Oui. » Là, j'ai du monde.
Il paraît que vous avez aussi une passion pour les châteaux, ouais. Que vous les connaissez par cœur.
Oui, enfin écoutez, là, ma passion, je veux dire, pour être honnête, mes parents, qui étaient des gens qui voulaient me bourrer de culture, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seconde où il fallait pas lire, faire quelque chose d'intelligent, j'avais au début une certaine anxiété quand je voyais arriver le dimanche matin, en me disant qu'est-ce qu'on va se taper encore aujourd'hui, c'est Chenonceau, Chambord, ou... Voilà, donc je pensais que les après-midi du dimanche pouvaient être éventuellement consacrés à regarder la télé, mais c'était pas trop le genre chez moi. Mais oui, c'est l'endroit, si vous voulez. J'aurais été élevée dans le Nord, ça aurait été autre chose.
Vous parlez beaucoup de la télé, c'était un rêve de gamine d'en faire ou pas?
Ah, pas du tout.
Pas du tout?
Ah non, surtout pas. Ah non, je vous ai dit que j'avais une relation à l'image qui est pas... pas du tout. Ni être connue, ni... J'ai travaillé à la télé, j'ai commencé à la télé parce que c'est là qu'on embauchait, à la 5. Mais avant, j'ai travaillé dans un journal de presse écrite. Moi, c'est la radio que j'aime parce qu'on est libre, on peut parler comme on veut et on n'est pas tributaire d'une grimace, d'un... On est en liberté absolue et à la fois dans une bulle, mais une bulle libre. Donc, je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus proche des gens.
C'est vrai que ceux qui vous écoutent là, qui vous écoutent sur Inter dans l'émission politique, ou qui vous voient faire des études dans le 20h, se disent, c'est pas la même. Moi, je vous ai reçu souvent dans une bande sur une émission de radio à l'époque sur RTL, et je me suis dit, mais c'est fou, c'est pas la même.
C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être tout le temps pareil, moi.
Vous n'êtes pas plus libre quand même face à un micro de radio que face à une caméra?
Bon, évidemment. Ouais. Ah oui, sur ce point-là, bon, évidemment. Je trouve ça... Mais écoutez, c'est complètement aberrant, honnêtement. Quand on fait un papier encore, quand on le fait avec vous, vous regardez les gens. Mais il y a des présentateurs qui regardent pas quand ils vous posent une question. Donc ça donne... Alors, Nathalie Saint-Cricq, aujourd'hui, Emmanuel Macron, et puis vous levez la tête, et puis vous voyez quelqu'un qui vous regarde pas, et vous parlez à un trou noir, le trou noir étant l'objectif de la caméra. Je trouve pas ça totalement naturel de parler à des gens par l'intermise d'un trou noir. Donc, la radio, c'est à la fois... Comment dire? On se parle à soi-même, c'est-à-dire qu'on raconte dans sa bulle, et puis on a une relation directe avec la personne qui vous pose des questions. Je trouve ça beaucoup plus affectueux.
plus proche de la vraie vie.
Oui, et puis la télé, c'est bizarre. Vous parlez, il y a des millions de gens, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas très naturel comme exercice.
Mmh. Et quand on vous reconnaît dans la rue, comment vous réagissez? Vous cachez dans votre
capuche? Écoutez, moi, je fais un tabac auprès des femmes de plus de 50 ans, voire les plus jeunes me disent « vous plaisez beaucoup à ma mère », voire les encore plus jeunes à ma grand-mère. Donc je pense que je suis... Les gens sont gentils, en général très gentils. Et je parle un peu parce que bon, de temps en temps ça me saoule quand ils me demandent mes pronostics, voilà. Et je n'ai été agressée que une ou deux fois, ce qui en une dizaine d'années vraiment peu, mais vraiment bien agressée, traitée de tous les noms. Mais bon, autrement c'est je réagis, mais j'en rajoute pas si vous voulez. Je ne rentre pas quelque part en me retournant pour voir si on m'a reconnu. J'ai connu beaucoup de personnes qui faisaient ça dans les gens dits célèbres.
Je vous demande des noms ou pas? Non, je vous demande pas de noms.
Non, mais ça me fascine pas. Et je trouve même, si vous voulez, que c'est une entrave à la liberté. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai envie d'aller déjeuner, dîner, faire je sais pas quoi. Imaginons que j'ai une vie parallèle. Bon, c'est pas le cas.
Vous ne le diriez pas ici?
Non, je ne dirais pas, mais je citerai même pas cet exemple. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez pas aller dans un restaurant, dans un hôtel, dans un... Si c'est pour avoir quelqu'un qui vous dit « Ah là là, vous avez l'air plus grosse à la télé, ah, vous êtes mieux au naturel. » Et en gros, pas pouvoir faire un mètre sans que ça se sache. Un jour, j'ai déjeuné avec Dominique Strauss-Kahn, parce que je voulais qu'il me raconte. Parce que ça m'intéressait, parce que je le connaissais. On est allé dans le fin fond d'un restaurant... Et dans les 12 secondes, j'ai reçu un message sur mon portable du genre « Ah, ah, t'es pas dégoûté ». Je trouve que c'est... Voilà.
Vous voulez qu'il vous raconte quoi?
Qu'il me raconte ce qui s'était passé, vraiment.
Et il l'a fait?
Bah oui.
Vraiment?
Bah oui, mais vous savez, je le connaissais depuis longtemps. Mmh. Donc.
Et c'est là, est-ce que ce qu'il vous a raconté est conforme à la version officielle?
Je crois, mais moi j'ai une analyse particulière de ce qui s'est passé, mais j'aime bien... D'abord, j'ai tendance à aller voir les gens quand ils sont au fond du trou, parce que je trouve que c'est plus intéressant que quand ils sont...
Vous achetez à la baisse, comme on dit.
Oui, mais c'est surtout qu'ils racontent. Il y a deux types de personnes qui racontent, ceux qui vont pas bien, et ceux qui sont très vieux et qui n'en ont plus rien à faire. Voilà, donc je vois les deux. Mais je vois aussi des gens jeunes et bien portants.
Et c'est quoi votre analyse, alors, sur cette affaire?
Je pense qu'il n'a pas voulu... Je pense que c'est un joueur, qu'il a joué jusqu'à l'extrême bord du précipice, avec une espèce de fascination pour le précipice, et que sur le fond, il lui-même le dit, qu'il n'avait pas une envie folle que d'être au pouvoir, parce que ce qu'il préférait, c'était la vie. Profiter de la vie, s'amuser, faire des choses comme ça.
La vie, c'est aussi la musique. Vous en écoutez beaucoup, je crois, de la musique.
Ouais.
Et ben nous, on va écouter Stromae, L'Enfer.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
L'enfer, l'enfer Stromae dans Hors Piste avec vous, Nathalie Saint-Cricq. C'est quoi l'enfer pour vous?
Je peux vous dire, c'est les autres parce que ça fait mauvais élève.
Ça a déjà été dit
par quelqu'un. L'enfer, je pense que c'est la maladie partout, c'est l'absence d'espoir, c'est quand on peut plus rien faire pour bouger quelque chose et que on est obligé d'attendre que ça se passe et que ça finisse. Voilà.
Vous me citiez pendant qu'on écoutait la chanson une phrase d'Albert Cohen.
Je ne sais plus dans quoi c'est.
Qui vous va assez bien.
Il dit, souris, n'oublie pas de sourire pour escroquer ton désespoir.
Ouais.
Je suis pas certaine que ça marche, mais il y a forcément une ambivalence. C'est-à-dire, soit on est désespéré, on se livre à ça, à ce moment-là, on est sinistre avec tout le monde. Mais comme je pense qu'il y a quand même tellement belle chose et tellement grande chose. Quand je vois un bébé, j'ai envie de l'embrasser. Quand je vois, voilà, c'est des choses qui font que on peut être désespéré tout en étant joyeux. Donc, voilà, je pense que ça peut cohabiter. Et puis ça peut aider au bout d'un moment, surtout vers les autres, de sourire tout le temps pour essayer de les aimer et de les attirer.
Je sais pas, mais moi cette chanson, l'enfer, elle m'a fait penser, vous avez peut-être trouvé ça curieux, mais à Valérie Pécresse et à Anne Hidalgo. Non mais vous souriez, mais quoi qu'on pense de leurs idées, on se dit que c'est dur la politique, ça doit être quand même très dur de prendre des raclées électorales comme ça, de se réveiller avec 4%, avec oui. 1%, avec...
Oui. Ça doit être absolument épouvantable. Puis c'est humiliant, et puis...
C'est injuste.
C'est injuste, là. Tout est injuste. C'est en partie injuste parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas été forcément soutenues. Mais je veux dire, ça serait des hommes, ça serait injuste aussi. Enfin, de toute façon, la politique, c'est comme ça. Il n'y a pas. Moi, je trouve déjà que vouloir candidater à la présidence de la République n'est pas un signe de normalité. Bon, alors, à partir du moment où on pense quand même qu'on peut faire ça, il faut s'attendre, il faut être extrêmement blindé, extrêmement solide et s'attendre à des échecs. Mais vous rendez-vous compte, il y a dans le temps, les gens s'y prenaient par 3 fois pour réussir. Et on considérait que c'était le cursus honorum, tu sais, aller une fois se faire battre, la deuxième fois se faire battre. Et puis, en plus, ça, c'est Borloo qui racontait ça. Oui. Et il disait que, déjà que c'est dur quand on est délégué de classe de se faire battre par ses copains, quand un jour on se présente à une élection, même une municipale, et qu'on voit que les gens vous aiment plus, oui. Que les gens vous aiment pas, c'est d'une violence symbolique très grande. Et que si on le vit mal quand on est petit, c'est encore pire quand on est grand et que c'est à l'échelon d'une ville.
Quel est parmi tous les politiques que vous avez croisés, celui ou celle que vous auriez aimé voir à la présidence de la République, hors idée? D'un point de vue humain, quel est celui ou celle... Ouais. Pourquoi lui?
Parce qu'il est un mélange de sérieux et d'humanité, parce qu'il est fantaisiste, parce qu'il aime les gens, parce que je trouve que c'est un type formidable. Voilà.
Ouais.
C'est un de ceux vraiment que j'ai rencontrés qui sont... ils sont pas comme les autres. D'ailleurs, tout le monde... C'est quelqu'un qui est très populaire, qui est très... C'est quelqu'un de très attachant.
Nathalie Saint-Cricq, c'est le moment de nous faire découvrir l'objet que vous avez apporté dans Hors Piste. Alors, quel est-il? Je ne vois rien sur la table.
Alors, l'objet se trouve dans les profondeurs de mon sac à main.
Ouais.
Donc, je l'ai mis sur le dessus quand même, parce qu'autrement, ça m'aurait pris 3 heures. Alors, mon objet, c'est ce que je trimballe avec moi en permanence dans mon sac.
C'est un petit sac, un petit sachet.
C'est un sac
là.
Avec plein de choses qui portent bonheur. Enfin, voilà. Donc, étant laïque. Non, mais attendez, j'ai fait un truc vrai. J'ai pas pris quelque chose qui serait valorisant, genre le stylo avec lequel j'ai écrit mon livre. Voilà, donc ça, c'est tout le temps sur moi. Il y a un louis d'or, qui est dans un petit sac qui a été cousu par ma grand-mère,
ouais.
Que je garde tout le temps, ça porte bonheur. Une médaille d'Otto de Habsbourg,
ouais.
Qui m'avait donné, parce que j'ai rencontré Otto de Habsbourg, mais il était très vieux, hein, je précise tout de suite, je l'ai pas vu. il avait 98 ans quand j'ai interviewé. Voilà. Ah, un dé, parce que ça rappelle que...
Un dé, ah ouais.
Que le hasard existe. Ouais. Un truc de fête des mères moches. Ouais. Tous les trucs de fête des mères moches.
C'est quoi, c'est
mon loto avec la tête de Blanche-Neige.
Une petite carte de jeu, ouais.
Vous savez, c'est une loto en place.
Oui, bien sûr, en place, c'est vrai.
Et une des anciennes tétines de mon fils.
Ah bah dis donc.
Ça peut passer pour une belle timbrée. Hein.
Donc vous avez toujours ça sur vous ?
Tout le temps, sur mon sac.
Ah c'est incroyable. Moi aussi je vous ai apporté un objet, regardez. Vous voyez ce que c'est ou pas ?
Oui.
C'est une tablette de chocolat, et qu'est-ce qu'il y a sur l'emballage ?
Il y a un gorille. Il
y a un gorille,
c'est ce que j'envoie dans les... Quand je vois des SMS, je signe avec...
Quand vous envoyez des SMS, vous envoyez l'emoji gorille, j'ai jamais compris pourquoi.
Ah, mon fils envoie le sanglier, oui. Mon autre fils, il envoie non pas un raton laveur, mais on est tous, oui, on a des animaux.
Oui.
Et moi, le gorille, parce que je sais pas pourquoi.
Mais il veut dire, parce qu'il est très sympathique, ce gorille, en
oui,
emoji.
Mais c'est pas très flatteur, physiquement. Mais,
Ah, parce que c'est censé vous représenter, parce que c'est pas ressemblant, hein.
J'avais un copain qui trouvait que j'étais tellement, excitée quand j'étais jeune et un peu violente et un peu, non pas mal dégrossie, mais, quand j'étais un peu militante sur un certain nombre, qui m'appelait la primitive.
Donc ça vient de là, en fait.
Je pense que ça vient de là. Mm.
Nathalie Saint-Cricq, il nous reste 2 minutes. Dans une semaine, on va voter pour le second tour de cette présidentielle. Cette campagne est donc désormais quasiment derrière nous. C'était comment alors ?
Oh, alors ça a été lent à démarrer. Malheureusement, ça a démarré en pleine guerre avec l'invasion des Russes. Quand je dis malheureusement, c'est pas un truc égoïste de journaliste.
Vous faites pas un papier politique là ?
Non, c'est pas ça. C'est que je trouve que ça a permis probablement de se réveiller sur un certain nombre de sujets, c'est-à-dire de pas être uniquement sur des choses périphériques, c'est-à-dire réfléchir sur qu'est-ce qu'une démocratie, réfléchir sur la souveraineté énergétique, réfléchir sur qu'est-ce qu'on doit faire à une défense européenne, est-ce qu'on doit riposter aux Russes, bon, des choses essentielles. Moi, je trouve ça très étrange que dans les derniers jours, on ne parle plus du tout de la Russie, comme si c'était ça fait la une des journaux et on a oublié. Je pense que ça va revenir à l'occasion du débat. Ouais. Parce que je pense que ça sera un élément essentiel d'une grande vision de la France. Et finalement, l'entre-deux-tours rattrape un peu le début de la campagne. Parce que honnêtement, à Noël, quand j'ai vu que ça commençait sur « Faut-il mettre 2 drapeaux sur l'Arc de Triomphe européen-français », je me suis dit « Mon Dieu !»
On est mal barré.
Oui. Mmh.
Rideau quasiment sur la campagne 2022. Vous pensez qu'Alain Duhamel fera aussi la campagne 2027 ?
Vous voulez me brouiller avec ma famille, c'est moche ce que vous faites. Écoutez, il aime ça.
C'est dur de raccrocher, hein.
Je sais pas, je pense que quand on est une femme, on est largement aidé à raccrocher plus tôt que quand on est un homme, mais faut pas raccrocher parce qu'autrement on devient rabougri dans un coin. Mais il y a plein de manières de ne pas décrocher. Ça peut être d'écrire, ça peut être de lire, ça peut être de passer à autre chose, je sais pas. Moi, j'espère que j'aurai spontanément envie de passer à autre chose. Mm. Peut-être de m'occuper de mes petits-enfants ou des trucs comme ça. Mm. Je suis pas entièrement certaine que je resterai pas excitée par la politique.
Bon, en attendant, vous avez encore du boulot. On vous retrouve régulièrement dans Télématin. C'est pas pour faire de la pub, c'est une façon de vous remercier, Nathalie. Et bien sûr, vous serez présente lors de la soirée électorale du second tour dans une semaine. Ce sera sur France 2. Merci beaucoup, Nathalie Saint-Cricq, d'être venue dans Hors Piste.
Merci, Thomas.
Merci également à Stéphane Combe et Marie Mairie à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Manon Rax à la mémoire vive et à Félix Delacour aux manettes. Merci aussi à Victoire de Rinxin. Prochain Hors-Piste dans une semaine, et ce sera avec l'humoriste Caroline Vigneault qui vient de triompher à l'Olympia. Dans Hors-Piste, c'est pas fini pour vous encore, puisque le dernier mot revient toujours à l'invité. Nathalie Saint-Cricq, c'est à vous donc.
Votez.
Merci.